Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Chester Himes, 1909-1984. Solitaire, timide, agressif, puritain, méprisant, attrayant, apatride, obsédé, écrivain avant tout, et définitivement noir. Voilà comment se décrit Chester Himes dans son autobiographie, dans ses romans, dans ses polars. Une vie, une œuvre vous entraîne aujourd'hui sur les chemins de travers du premier écrivain black de la série noire. Du Missouri à l'Andalousie et de Cleveland à Paris en passant par la case prison pour 7 ans de réflexion. Témoin hargneux et plein d'humour de la survie en milieu carcéral, de la ségrégation en Californie et des amours perdus, Himes est célèbre pour sa peinture haute en couleur de Harlem, écumée par ses méchants héros, les détectives Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, qui lui valurent d'être sacré pape du ghetto alors qu'il résidait et écrivait non loin de Notre-Dame de Paris sur la rive noire de la Seine. Chester Himes, Noir sur Noir, un documentaire de Martin Kénéen et Gilles Davidas.
J'eus sans doute bien des raisons pour venir en Europe, mais je ne me les rappelle pas clairement. Il en va de même pour les cicatrices profondément marquées dans mon subconscient par 7 années de travaux forcés. J'ai presque complètement oublié la prison, comment elle était et ce que j'étais lorsque j'y vivais. Je n'en conserve qu'une certitude. Tout être humain, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa foi religieuse ou son idéologie, est capable de tout et de n'importe quoi.
Chester Himes, Noir sur Noir. Martin Kénéen, Gilles Davidas.
Noir, né et élevé en Amérique, j'y vivais. Le préjugé de race fut donc un des motifs pour lesquels je quittais mon pays. Mais j'en avais bien d'autres et je le sais. L'un fut peut-être que j'avais assez d'argent pour partir. Un autre fut que j'étais à 2 doigts de tuer Wendy Haygood, la blanche avec qui j'avais vécu, et ça m'épouvantait. Mais il est temps d'en dire plus sur ma vie aux États-Unis. Je suis né le 29 juillet 1909 à Jefferson City, capitale du Missouri, en face de l'Institut Lincoln, où mon père, le professeur Joseph Sandy Himes, enseignait ferronnerie et charronnerie en qualité de chef du département.
Chester Himes croyait écrire des romans réalistes, avant de se rendre compte qu'il nageait en pleine absurdité. Un petit fils d'esclave qui fait ses humanités pendant les années folles, un ex-tolard qui plonge sa machine à écrire dans la gnôle, le sang et la mélanine. Voilà Chester. Chester Himes est un muckraker, un fouille-merde, doublé d'un puritain adepte de l'autodérision. Pour ses premiers détracteurs, sa littérature n'est qu'une série d'injures ponctuées de crachats. James Baldwin l'accuse d'écrire l'histoire comme un cauchemar. Et puis il y a Harlem, l'araignée dans la grosse pomme, le cloaque, couleur black coal, le morceau de charbon dont Chester l'alchimiste a révélé les reflets hors massif. Et le Big Gold Dream est devenu foutrement réel. Himes avait lâché dans l'arène ses doubles de fiction. 2 flics noirs dont les blases fleurbont le sapin, Cercueil et Fossoyeur. Voilà comment Chester Himes s'est forgé une âme immortelle.
Chester Himes, c'est la tragédie. Et heureusement et malheureusement pour lui, cette tragédie va faire l'essentiel de son œuvre.
Gentlemen, roll!
Chester Himes a un père à la peau noire comme moi, comme tous les autres, très foncé même, mais la maman est une mulâtresse, une octavone, comme on dirait même.
Comme Dongo Onono.
Ça fait donc une crise. Le père revendique sa négrité, la mère se veut blanche, mais les blancs n'admettent pas comme blanche, elle est métissée. C'est à la faveur de cette carrière parentale que M. Chester Himes apprend qu'il est effectivement un noir.
Parce que Chester Himes lui-même était victime.
Ambroise Cosme.
Était victime de sa mère. Il le dit, c'est vrai. Il était victime de cette image d'octavone que sa mère s'était construite de lui-même et qu'il avait essayé de transmettre à ses enfants. Il en avait été victime. Mais à un moment donné, quand il grandit, au fur et à mesure qu'il grandit, il ne se fait plus d'illusions. Il se dit, bon, ça, en fait, notre mère nous a complètement détruits avec tout son imaginaire de femme métisse, de femme qui avait des ancêtres blancs, tout cela. Et il s'en rend compte. Et ça lui fait extrêmement mal.
I'll take honey. And maybe some ham or bacon.
Excuse me, but wouldn't you like something first?
What you got?
Une nuit, alerté par le tapage, je dévalais l'escalier et trouvais mes parents en train de se battre dans la salle à manger. Mon père saignait d'une blessure que ma mère lui avait faite au front d'un coup de fer à repasser. Il la tenait par la gorge et la poussait contre le mur. Je les séparai. Ma mère s'affala sur une chaise et éclata en sanglots. Mon père monta faire sa valise. Je ne leur en voulais pas, mais j'avais affreusement honte.
Paradoxalement,
Sylvie Escande,
il est possible à des Noirs qui sont des Noirs de la classe moyenne, donc le père enseigne dans des universités technologiques et agricoles destinées aux élèves Noirs. La mère est une intellectuelle, est une artiste, elle écrit, elle fait de la musique, elle enseigne aussi parfois. Et il est possible à cette famille de vivre protégée du racisme. Parce qu'en fait, il n'y a pas de blanc dans le paysage. Chester vit une enfance qui est paradoxalement dans le sud des États-Unis, notamment dans le Mississippi, protégée du racisme. L'accident survenu au frère, dont on voit qu'il a une portée énorme dans sa vie et dans son œuvre, parce qu'il s'entoure, il est entouré d'une auréole de culpabilité extraordinaire de Chester. Donc son frère, à l'issue d'une expérience de chimie, est aveuglé. Donc l'accident entraîne le départ de la famille pour Cleveland.
Je ne me rappelle ni où ni quand je fis connaissance de Benny, un voleur à la tire. Solide gaillard au teint marron clair et à l'esprit assez simple, Benny se prit d'admiration pour moi. Afin de la mériter, j'appris à fumer de l'opium et à voler des voitures. J'emmenais volontiers mon acolyte dans les magasins chics que j'avais fréquentés, et pendant que je discutais avec le vendeur, Benny volait briquet au bouton de manchette. Il logeait dans un deux pièces en sous-sol. Il y avait toujours des jolies filles chez lui. C'est ainsi que je rencontrais la plus belle jeune femme à peau brune que j'eusse jamais vue jusqu'alors. Jean Johnson. Elle ressemblait vaguement à Lena Horne jeune, mais en plus foncé. Sa peau avait le brun rougeâtre et chaleureux de la dinde parfaitement rôtie au moment où on la sort du four. Elle avait un visage en forme de cœur, des lèvres chaudes et épaisses et les yeux marrons. Je ne sais pas ce qui l'attira vers moi, mais elle tomba follement amoureuse de mon âme immortelle.
Don't turn around, just keep walking, just like that.
Il essaie de trouver sa propre voie. Mais cette voie-là est une voie de risque.
Now run and don't look back. Liar! Don't look back! Buster! Well, come on, get it in, get it in! Hurry, get rid of that wagon!
Ce basculement est une espèce de révolte. C'est aussi une manière de prendre sa liberté. De prendre sa liberté. Et alors, bon, tant qu'à faire, s'il faut être gangster, s'il faut être prisonnier comme tous les Noirs pour avoir ma liberté, ben, pourquoi pas? C'est pourquoi on a l'impression que même quand il commet ce crime-là, quand il devient gangster, il prend cela sans, de manière assez aisée, pratiquement sans aucun sentiment de tragédie. Se retrouver en prison, c'est comme si c'était un jeu, une situation tout à fait normale qu'il essaie d'assumer. Peut-être qu'en ce moment-là, il retrouve son identité de noir de l'époque.
Il va donc en prison, sur le numéro 59-623. Il a été condamné par le juge McMahon à 25 ans de travaux forcés. On est convaincu que pour Chesaham, c'est terminé.
Il en avait marre de ces 7 longes. Avant, ça ne lui avait jamais semblé si long, la prison. Mais 3 séjours dans une tôle ou une autre, et chaque fois pour une paye, ça commençait à faire un bail.
Dès 1932, il commence donc à écrire des nouvelles avec son numéro de prisonnier, c'est-à-dire 59623. Le talent de Chester Hines jaillit paradoxalement en prison.
15 années définitivement retranchées de sa vie. 15 années sans l'étreinte douce et aimante des femmes. Et comment la société pouvait-elle infliger cela à un homme et s'attendre ensuite à le voir filer doux? Bon, même là, il pouvait pas trop se plaindre. Il s'agissait simplement du hasard. Il y avait eu des bons et des mauvais moments. Il s'attendait à trébucher de temps à autre tant qu'il était dans le circuit des détrousseurs de Camé. À l'air libre, ah, il détroussait en beauté. Ça le faisait jouir de dépouiller ses caves. Mais quelque chose clochait dans cette idée de hasard. Ça ne lui paraissait pas équitable.
Finalement, il fait
Sylvie Escande.
7 ans et demi. Après ces nouvelles qui sont publiées et qui ont de très bons échos, hein, Hines se lance dans l'écriture d'un premier roman, donc S'il braille, lâche-le, qui obtient, on dira, un succès d'estime. Puis c'est La croisade de Ligordon, qui obtient un insuccès frappant.
En 1940, Richard Wright a publié Native Son.
J. Clamart.
Et en 1952, Ralph Ellison a publié L'homme invisible pour qui chantes-tu? S'il braille, lâche-le était publié entre les deux, en 1945. Et ce n'est pas apprécié par les universités, certainement pas à l'époque. Je pense parce que Hines avait une attitude très différent que l'attitude de Wright ou de Ellison. La chose fascinante avec Bob Jones dans S'il braille, lâche-le est qu'il est un homme beaucoup plus réel que les autres protagonistes. Il a une attitude très acerbe vis-à-vis des blancs et des noirs. Il y a un côté très satirique dans ce livre, particulièrement concernant la bourgeoisie noire en Californie. Et Bob Jones est plus un personnage Hemingway-esque, un homme solitaire, un homme qui veut faire son boulot avec efficace, et il a cette envie d'être indépendant. Et je pense qu'il est complètement à part des autres protagoniste, autre personnage qui était très acclamé par l'establishment littéraire aux États-Unis. Chester Hines n'était pas un modèle à suivre, et je pense qu'il y avait quelque chose peut-être menaçant pour l'intelligentsia.
Je dois dire que je n'ai jamais aimé de noir américain sans autre raison que la communauté de race. Je n'avais apprécié que ceux qui m'intéressaient. Ma femme, quelques truands à Cleveland et des environs, quelques camarades d'études à l'université, quelques camarades de détention, quelques camarades de travail rencontrés ici et là au cours de mes nombreuses occupations, et Richard Wright. Dick me plaisait. J'estimais que je n'avais pas besoin d'aimer les Noirs pour me prouver mon identité. Je n'avais d'ailleurs rien besoin de prouver en parlant de mes périodes de vache enragée, de mes tourments et de toute cette merde. Parfois, mes frères d'âme m'agaçaient en exhibant leurs cicatrices, en se vantant de leur peu d'instruction et de leur enfance malheureuse, afin de s'assurer de la sympathie et quelques chattes blanches, voire de l'argent.
Il était, oui, trop visible, trop indépendant, trop solitaire peut-être. Et aussi, il était un vrai outsider dans un sens que les autres grands écrivains de l'époque n'étaient pas. Par exemple, il était un prisonnier, il était en prison pendant 8 ans. Et je pense qu'il y avait, particulièrement au début de sa carrière, il y avait cet élément un peu effrayant pour l'establishment littéraire.
Then I turned over and dreamed on the other side.
Là, je me suis retourné et j'ai commencé à rêver sur l'autre côté. Je travaillais dans une usine de guerre où un blanc qui s'appelait Frankie Child venait d'être tué.
The police lieutenant said,
et la police s'était amenée et cherchait qui avait fait le coup. Le lieutenant de police disait, il s'agit de trouver un type qui boite, qui a de gros bras et de grosses mains. Alors ils ont fait comparer tous les nègres à un. Le premier était un noir à la peau foncée, d'environ 35 ans, de taille moyenne, souple et bien bâti. Il portait une chemise de travail d'un bleu passé et des bleus de chauffe retenus à la taille par une ficelle. Il arrivait du sous-sol et a marché droit sur le lieutenant. Il le regardait dans les yeux, se tenait devant lui, raide et décidé. Le lieutenant lui a demandé « Tu n'as pas peur de passer l'épreuve ?»« Quelle épreuve ?» questionnait le noir. « Te sens-tu capable de monter au troisième et de regarder le cadavre de Frankie Childs en face ?» Le noir a répondu « Frankie Childs ? Mais comment ? Mort ou vivant ? J'ai pas peur de le regarder, ce salaud-là. » Il avait une bonne voix, posée, claire, mais pas musicale. Il s'est retourné et a commencé à grimper les escaliers 3 à 3. Tout à coup, j'ai éclaté de rire. J'ai dit au lieutenant, « Oh, vous allez les faire tous cavaler dans l'escalier jusqu'à ce que vous trouviez le boiteux. » Là-dessus, j'ai dégringolé dans la cage et je me suis étalé par terre en me tordant de rire.
C'est Braille, lâche-le.
Comme Dongo Onono.
Et puis Lonely Crusade, la croisade solitaire, sont les romans d'abord de guerre. Chester Himes est partiellement vomi aux États-Unis. C'est à peine si on reconnaît qu'il a publié les œuvres. La critique est très virulente, très acerbe. Et il ajoute quelque chose de très important. Il dit, dans toutes mes œuvres, y compris les romans policiers, ce que je rapporte, c'est ce que j'ai vécu.
Mais pouvait-il vivre une vie normale, étant donné que lui-même était issu d'une société fondamentalement anormale, ou qu'il inscrivait, lui, dans la normalité, puisque c'est bien ça la société américaine, où le noir vit dans la normalité et le blanc est le symbole de la normalité en ce moment-là, et ce qui fait que nous vivons en quelque sorte, tout l'environnement américain de cette époque-là est un environnement qu'on pourrait appeler fondamentalement pathologique. Et c'est toute cette difficulté-là, toute cette complexité-là qui fait de Chester Himes un véritable cas, autant psychologique que social.
The alarm went off again.
Le réveil s'est mis à sonner. C'est alors que j'ai compris que j'avais été réveillé par la sonnerie. Je l'ai cherché à tâtons et je l'ai arrêté, tout en gardant les yeux bien fermés. Mais j'avais beau reculer devant le jour, je commençais à sentir la peur. Elle revenait à mesure que je reprenais conscience, d'abord dans ma tête, quelque part derrière mes paupières fermées. De là, elle passait doucement dans mon crâne. Elle gagnait ma nuque, et ça me faisait froid et creux. Elle me pénétrait dans l'épine dorsale, elle me prenait les bras, elle s'installait palpitante au creux de mon bas-ventre et me crochait dans les parties sexuelles au point que c'en était une torture. Pendant un long moment, je me suis senti brisé et rompu en dedans, noyé, paralysé, comme si j'avais dû me lever pour mourir.
Et donc, il connaît une série d'insuccès, et notamment l'insuccès de la croisade de Lee Gordon, qui est un livre dans lequel il a énormément mis de lui-même, mais beaucoup aussi d'éléments autobiographiques, notamment sur les relations entre hommes et femmes noires, hein, où on peut retrouver beaucoup des choses de ses propres relations avec sa femme, avec une analyse aussi politique de cette différence de traitement par l'Amérique des hommes et des femmes noires.
Ben, disons, les relations hommes-femmes font partie du fondement même du problème américain. tout ce que Chesterham a écrit en utilisant cette relation entre l'homme noir et la femme blanche, ou entre l'homme blanc et la femme noire, est fondée sur cette mythologie qui remonte à la vie des plantations, en réalité. L'homme blanc, en quelque sorte, se méfiait de l'homme noir, parce que c'était l'animal, entre guillemets, l'animal des plantations, donc doué d'une puissance physique, d'une force physique, donc d'une puissance sexuelle absolument inimaginable, ou du moins fantasmée par l'homme blanc. Et tout cela a créé entre les deux groupes une espèce de mythologie que Haim essaye d'utiliser dans La fin de Primitif, dans Affaire de viol, dans Sid Bryant Lashley, pratiquement dans tous ses récits.
Oh, you got a sweet, you got a sweet, sweet back.
Jesse s'apprêta dès 6 heures pour avoir le temps de passer au bar chinois, d'y boire quelques bières au gin afin de se détendre et se mettre en train. Chris avait horreur des flirts silencieux et crispés. Elle tenait à ce que ses nègres soient gais, disserts, ardents et même frénétiques. À quoi d'autre lui servirait un nègre, pensa-t-il? Pas à étudier son arbre généalogique puisqu'une seule branche l'intéresse.
Bon exemple de cette attitude est La fin d'un primitif. Ce livre-là a été publié en 1955 et dans ce livre, c'est l'histoire d'une descente en enfer, un week-end perdu entre un écrivain noir raté et une femme blanche qui est obsédée par les hommes noirs. Et il parle de l'obsession sexuelle entre les noirs et les blancs dans une manière très dure et pointue et honnête. Et je pense qu'à l'époque en particulier, quand il y avait des États où les relations sexuelles entre les Noirs et les Blancs étaient illégaux, il y a des lois qui disent « non, c'est pas possible ». Dans ce milieu, dans cette époque, Himes a décrit un univers new-yorkais où il y a beaucoup d'échanges entre les Noirs et les Blancs. Mais l'obsession de 19e siècle, de l'âge de l'esclavage, dure à côté des Noirs et des Blancs.
Wendy fut heureuse de me revoir. Arrivée à la fin d'une liaison, elle avait besoin d'un homme. Je me mis en ménage avec elle et nous vécûmes 18 mois d'ardente passion orgiaque et de macération alcoolique. Mon roman La fin d'un primitif, écrit quelques années plus tard, relate l'essentiel de nos amours. J'ai élagué ce qu'une cohabitation aussi longue peut comporter de fastidieux, mais l'histoire est à peu près exacte, à ceci près que je ne l'ai pas tué. Mais il s'en fallut de peu que je la massacre. Durant la dernière semaine de l'année suivante, 1952, il ne me restait plus rien des 1 800 $, et Wendy se lassait de moi. Lorsqu'elle alla retrouver un de ses anciens amants à Chicago, après m'avoir dit qu'elle se rendait à Washington pour affaires, je la rossais affreusement. Dès qu'elle avoua la vérité, je la giflais. Toutes les rancœurs que j'accumulais depuis le début de ma vie m'assaillirent. Je perdis la tête et continuai à la gifler farouchement. Puis tout à coup, en voyant son visage gonflé, je revins à la raison. La danse avait commencé alors que nous étions au lit et c'était le samedi soir après Noël. Je l'avais tellement cette année que pendant un instant, je la crus morte.
Alors vous pouvez danser maintenant, essayez de danser tous ensemble.
Si Wendy la Blanche n'est pas morte, la mère de Himes vient de passer l'arme à gauche. Et comme son mariage avec Jean bat furieusement de l'aile, Chester le solitaire prend le bateau et traverse l'Atlantique en quête de fric, de succès et de liberté. Il emboîte le pas à Richard Wright et accoste sur la rive noire de la Seine. Mais au temps béni des dernières colonies et des romans de protestation, les bonnes âmes et autres éditeurs préfèrent les noirs serviles, hilars ou communistes. La prose furibarde de Chester Himes contraste par trop avec celle de ses frères d'âme, qu'il considère parfois comme des nègres de papier. Alors, Himes mange de la pâtée pour chien arrosée de whisky frelaté dans des pioles miteuses du quartier latin. Et puis, en 57, il rencontre Marcel Duhamel. Quelques années plus tard, le fondateur de la série noire passe aux aveux, à la TV.
Il est venu me trouver une fois, quand il est venu à Paris, chez Gallimard, il vient de faire la troisième génération, et je dois dire qu'il était assez embêté, parce qu'il ne gagnait pas d'argent, bien sûr, avec des livres en tiratio, etc. Alors je lui demandé pourquoi vous ne m'écrivez pas des séries noires, des romans policiers. Jamais écrit une detective stories, n'est-ce pas? Je ne saurais pas le faire. J'ai insisté, je lui ai dit, vous avez le background, vous avez derrière vous tout le pittoresque de Harlem, etc., n'est-ce pas? Vous connaissez à fond comme personne. Alors il a finalement dit, il m'a demandé des renseignements, enfin des suggestions. Je lui ai dit, décrivez simplement les choses telles que vous les avez vues. Ça fera toujours un roman policier, puisqu'il se passe une infinité de choses dans Harlem même, des choses dont vous avez été ou non témoin. Il m'a dit, je vais essayer. Il m'a ramené 8 jours après, je crois, ou 10 jours après, un manuscrit. Je suis en train de vous dire, c'était La Reine des Pommes, en fait. Mm-hmm. Il était formidable.
C'était formidable, parce qu'il y avait de plus en plus de jazz band qui arrivaient, qui s'installaient à Paris.
Patrick Reynal.
La culture noire américaine était en train de devenir, c'était vachement hip. Richard Wright, Marcel, il voit arriver quelqu'un qui dit, attends, je vais pouvoir mettre ça dans la série noire. À l'époque où Sartre se baladait partout à Saint-Germain-des-Prés avec un série noir, et quand il voyait quelqu'un qui lisait une connerie, il lui disait, il faut mieux de lire ça. Duhamel ayant lui-même inventé la série noire, c'est-à-dire ayant réussi à dégager de cette littérature américaine un petit peu éparse, et il a pris Himes, il en a fait véritablement le premier grand écrivain noir de la série noire. Et du coup, il a à l'intérieur de la série noire, il a inventé un genre. Il a inventé le roman d'Harlem. Et donc il a inventé Shaft, et donc il a inventé tout ce qui est venu après.
Le policier de poche avec Jean-Pierre Melville.
Jean-Pierre Melville, vous avez débuté au cinéma avec des adaptations littéraires, Vercors, Silence de la mer, Cocteau, Les enfants terribles, et puis vous êtes passé à une littérature policière, et maintenant vous semblez être un spécialiste du cinéma policier.
Je n'ai pas pris de spécialité, je crois qu'en faisant des films policiers, je fais encore du cinéma littéraire, au même titre que celui que je faisais il y a 20 ans en faisant Silence de la mer ou Les enfants terribles. C'est certain que j'ai une très grande prédilection pour la littérature policière. Et que depuis l'âge de 12 ans à peu près, quand j'ai découvert la littérature policière, j'y suis fidèle. Je ne crois pas que ce soit un genre mineur. Je sais que vous avez un peu le sentiment que c'est une littérature mineure. Je ne le crois pas. Je crois qu'un livre policier réussi est un livre aussi réussi qu'un livre de littérature pure.
Mais je crois que vous avez préparé un petit choix de livres que vous aimez bien. Là, j'aimerais bien que vous les montriez.
Avec plaisir. Alors, dans un style qui n'est pas du tout mon style, mais que j'aime énormément, c'est La Reine des Pommes de Chester Himes, qui est un livre policier très drôle.
Et un portrait de Harlem en même temps.
Oui, extraordinairement vrai. Mmh. Et tel que personne d'autre qu'un écrivain noir ne pourrait se permettre de le faire.
Le temple du Jésus noir se trouvait dans la 116e rue à l'est de Lenox Avenue. Tous les quartiers avec ses rues peuplées de taudis crasseux qui couraient parallèlement au quartier espagnol de Harlem, grouillé de misérables locataires qui rissolaient dans la canicule comme des cafards affamés dans un plat de faillot. Leur démarche traînante s'accompagnait de petits nuages de poussière. Des toisons laineuses surchauffées par l'air brûlant de la nuit, la transpiration coulait comme de la graisse de l'ongle des nuques noires et luisantes. Des gens à demi-nu juraient, grognaient, hurlaient, riaient, buvaient du whisky de pacotille, se gavaient de nourriture grasseuse, respiraient l'air vicié, suaient, puaient et festoyaient.
«
Chester Himes, en fait, connaît assez peu Harlem.
Hélène Tison.
Il y a séjourné brièvement, et quand il a séjourné à New York, il a plutôt habité dans les parties blanches de New York, dans le village, chez un de ses cousins. Et il a résidé, en tout et pour tout, moins d'un an à New York. En revanche, il connaît bien le ghetto, en particulier le ghetto de Cleveland. On sent bien, quand on fait le parallèle, enfin quand on lit son autobiographie et qu'on lit ses romans policiers, on voit un certain nombre de parallèles, notamment des personnages qui sont mentionnés dans son autobiographie comme étant des petits criminels du ghetto de Cleveland qui réapparaissent dans la série policière. Le Harlem qu'il écrit est en grande partie une construction personnelle, imaginaire, et s'il subit des influences, c'est plutôt des d'auteurs antérieurs à lui, en particulier Claude McKay dans les années 20, Langston Hughes énormément, notamment dans le moment où la vision de Harlem se dégrade un peu chez Hughes, hein, Rudolf Fischer aussi, qui a écrit deux romans policiers qui se situent à Harlem dans les années 20. Il connaît beaucoup plus le Harlem littéraire que le Harlem réel quand il commence sa série.
Je pense que, en fait, Himes a décrit ce qu'il a vu à Harlem. Il y a, particulièrement dans La Reine de Pommes, un sens de vérité là.
C'est clairement.
Et je pense qu'il est allé en Europe, et il est retourné aux États-Unis, je pense, pour 18 mois. Et il était coincé à Harlem. Et je pense que c'était dans cette période-là où il a vu Harlem comme un étranger. Après son premier séjour en Europe, il a vu des choses qu'il a trouvées bizarres, que peut-être il n'a pas notées avant. Mais grâce à cette période, à ce séjour en Europe, il est comme quelqu'un d'une autre planète qui est placé à Harlem. Et donc, il parle de travailleurs qui ont un petit déjeuner de travers de porc à 8 heures du matin. Et il dit, c'est bizarre ça. et donc, je pense que pour moi, les personnages n'est pas les stéréotypes. Hey!
Oh oh. Ow! It's... You don't mean that. Ah, help me up, sucker!
Mm. Oh, beauty! Thank you. Oh. Good day. Real beauty.
Hey, slow down, man.
Yeah, man, you can't be whipping on me like this out in the street, man. First, you gotta take me inside and book me, then you whip the hell out of me in the basement.
What?
Hey, wait a minute, man. You gotta take me in, man. I stole that wheel.
Il y avait le côté cliché, c'est-à-dire que c'est vrai que, mais on connaissait pas non plus ce qui se passait à Harlem, hein. C'est-à-dire, on inventait le cliché aussi, hein. C'est-à-dire qu'on se disait, ça sonne juste.
Patrick Reynal.
Ça doit se passer comme ça. Enfin, personne, tout au moins dans les Européens, ne connaissait suffisamment les bas-fonds de Harlem pour savoir si ça sonnait juste ou pas. Donc, on rapprochait ce cliché à ce qu'on savait des jazzman, de certains acteurs, enfin, c'était quand même un cliché assez nouveau parce que les histoires qu'on racontait à Himes, c'était vraiment plongé dans un Harlem qui était assez peu accessible aux blancs.
Voici Harlem, au cœur de New York, 500 000 habitants, tous noirs. Il fut un temps où Harlem était le haut lieu des plaisirs à New York. Aujourd'hui, ce cabaret, le Small's Paradise, est un des rares endroits où les blancs osent encore venir se distraire. Encore pour y venir, prennent-ils un taxi qui les laisse juste devant la porte. Et encore faut-il que ce taxi soit conduit par un noir. La plupart des chauffeurs blancs ne s'y risquent pas. Pourtant, nous sommes promenés dans Harlem le soir, la nuit, sans que jamais rien ne nous arrive. Mieux, nous y habitions. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'un journaliste américain n'aurait pas pu pénétrer dans bien des endroits où nous avons filmé.
Voyez-vous, la plupart d'entre nous ne peuvent pas faire ce qu'on attend en général du noir américain. Nous ne pouvons pas danser, nous ne pouvons pas chanter, nous ne pouvons pas jouer d'instruments de musique, nous ne pouvons pas être aimables, serviables, conciliants comme les autres frères, parce que nous ne savons pas comment il faut s'y prendre. Et voilà ce que les Blancs refusent de comprendre. Il y a des nègres incapables de donner bonne conscience aux Blancs. En fait, ajouta-t-il en se mettant à rire, certains d'entre nous ne peuvent même pas montrer leurs dents. des dents qui sont trop mauvaises et nous n'avons pas l'argent pour les faire soigner. Et puis, en plus de ça, nous avons mauvaise haleine.
Le noir américain doit gagner sa vie par tous les moyens dans une société américaine qui l'a complètement marginalisé. Il ne peut pas construire son espace. Il ne peut pas construire son espace économique, il ne peut pas construire son espace social, mais il subit cet espace-là. Il subit l'espace économique, il subit l'espace social. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve proxénète, qu'il se retrouve vendeur de drogue, qu'il se retrouve vendeur de la parole du bon Dieu. Tous les moyens sont bons, comme on le voit dans la Reine des Pommes. Et alors, donc, ce que Chesterham fait par rapport à Harlem, en quelque sorte, il synthétise un peu tous ces cas qui existe dans la société américaine, éparpillé un peu partout, et il fait comme on pouvait trouver le concentré, le condensé de tous ces stéréotypes-là à Harlem. Et il dit ici, c'est vraiment l'endroit où bat le cœur de l'Amérique noire, et alors il est mêlé là-dedans.
Ma parole, Pépère, je croyais que tu viendrais jamais. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, Trésor. Elle était mise à bout de bras, les yeux sur le tuyau qu'il n'avait pas lâché. Puis elle scruta son visage, lisant en lui comme dans un livre ouvert. Elle passa lentement la pointe de sa langue sur les gros bourrelets onctueux et sensuels de ses lèvres, afin de leur donner un éclat mouillé. Puis elle regarda Jackson droit dans les yeux, comme seule elle savait le faire, de ses prunelles luisantes et troubles de bête à plaisir. L'homme s'y perdit. Quand il remonta à la surface, il fixait à son tour ses yeux sur elle, hébété de passion, vibrant dans sa peau noire comme un diapason. Prêt à tout, prêt à couper les gorges, à fracasser les crânes, à esquiver les flics, à voler les corbillards, à se breuver d'eau bourbeuse, à manger de la vache enragée et à défier l'univers afin de connaître, une fois encore, l'étreinte de son idole, Jaune Banane.
Dans les policiers à Harlem, ce que j'adore est l'absence totale de sentimentalité. Ça n'existe pas dans l'œuvre de Himes. Ils sont tous des gens violents, des escrocs, j'oublie le mot, les prostituées. c'est un univers complètement corrompu, mais plein d'humour. Himes, il ne peut pas résister de voir l'absurdité de la vie. et ça, c'est une autre raison que je pense qu'il n'était pas apprécié par les intellectuels américains.
Braves gens, vos aliments sont digérés par des sucs variés dans l'estomac. Et il y a un de ces sucs pour chaque chose que vous mangez. Il y a un suc pour la viande et un autre pour les pommes de terre. Il y a un suc pour les tripes et un autre pour la tarte aux patates douces. Il y a un suc pour le petit lait et un suc pour le riz et les pois chiches. Mais il arrive parfois que ces jus se mélangent et se trompent de destination. Par exemple, on peut manger un épi de maïs au beurre fondu qui vient tout juste de sortir de la casserole et il est tellement bouillant qu'on se brûle la langue. Là-dessus, votre palais n'y comprend rien et envoie le mauvais signal à l'estomac. Et du coup, l'estomac se met en branle et expédie le sucre prévu pour le poivre de Cayenne. Alors tout à coup, vous avez l'estomac à l'envers et le maïs brûlant vous monte à la tête. Ça vous déclenche une fièvre de cheval et l'escalade du thermomètre. Vous avez la tête tellement brûlante que voilà le maïs qui explose. Et le maïs éclaté s'éparpille partout dans votre crâne et se mélange à vos cheveux. Et c'est comme ça qu'on attrape des pellicules.
C'est difficile de parler de Himes parce que ce qui cache un peu l'écriture et la forêt et tout, c'est le tumulte des personnages. C'est-à-dire que c'est des filles à la peau banane, il y a la bouffe, la tout, le gombo, les pieds de porc. Et d'autant plus qu'ils sont toujours en train de bouffer. Hein, ils sont toujours en train de s'arrêter dans un petit caboulot. Et le tout fait une espèce de chatoiement, de chatoiement noir. C'est-à-dire que tout est noir, mais ça chatoie à l'intérieur. Mais Chesterham, c'est pas du tout cela. La vision de Harlem de Chesterham, c'est pas du tout la vision des bas-fonds de Paris de Zola. Chesterham cherche pas à faire pleurer.
Harlem, mais écoutez, moi, je suis de Southside, de Chicago, du côté sud de Chicago, qui était tout craché, Harlem.
Melvin Van Peebles. Hmm?
C'est tout craché, quelques endroits que je connais à des autres places, parce que les Noirs, ils ont tout vient de le sud, ils ont tous dans un ghetto, et il y a les petites différences ici et là, mais c'était la même place. Très souvent, les gens pensent, ah, vous êtes à Harlem, mais non, je suis de Chicago, oh, bah, même chose. C'est comme ça. Les ghettos, c'était plein de violence. Moi, avant que j'étais 10 ans, juste regarde sur ma fenêtre en bas, je suis sur le troisième étage, j'ai vu 9 gens tués. Mais bien sûr, tous ces gens qui étaient tués, c'est noir, tué noir. Parce que c'est que le noir dans ce ghetto. Mais il y a, donc cette violence, c'était pas la même violence, c'était la façon de vivre. À cette époque, par les gens qui étaient si prisonniers de la société.
Dans tous vos romans policiers, les deux héros sont toujours Ed Cercueil et Fossoyeur.
Michel Fabre et Chester Himes en 1970.
Ce sont des prototypes de policiers noirs américains. Ils sont réactionnaires, des gens détestables.
They are personal characters, not in what they do so much, is in the way they think. Black detectives.
Ce sont des personnages non pas dans ce qu'ils font, mais dans la façon dont ils réfléchissent.
Black neighborhoods are commonplace because it's only in this century that the law enforcement has moved in the black ghettos.
Et vous savez, dans les ghettos noirs, c'était des policiers noirs qui faisaient respecter la loi. Parce que les policiers blancs n'y étaient pas admis. Et ces gens-là sont plus racistes que les blancs. Plus que les gens du FBI. Ils brutalisent les noirs.
In a way, Coffin and Gravedigger would represent the kind of say black detective that should exist.
Donc ces prototypes Ed Cercueil et Fossoyeur doivent exister.
And this time I have done this to the place I've done this so consistently that I believe in them.
Oui.
I have a lot of some people who read my books.
Ils existent.
Ce soir-là, Fossoyeur reprenait son service après avoir écoupé un pruneau expédié par un homme de Benny Mason au cours de l'explication qui suivit la perte d'un colis d'héroïne. Pendant 3 mois à l'hôpital, il avait soutenu avec des fortunes diverses une bataille contre la mort. Puis pendant 3 autres mois, il était resté en convalescence chez lui. Mais à part les cicatrices cachées sous ses vêtements et la balafre large comme le doigt qui sur sa nuque suivait la lisière de ses cheveux, où une première balle avait déjà dessiné un rond dégarni, il était bien pareil à lui-même. C'était toujours la même figure brune et bosselée, aux yeux d'un brun rougeâtre qui semblait brûler d'un feu sourd. La même puissante charpente, frustre et dégingandée, d'un manœuvre d'usine. Le même feutre sombre et cabossé, porté l'hiver comme l'été et repoussé à l'arrière du crâne. Aussi loin que le lieutenant Anderson pouvait se le rappeler, ses deux compères, ces officiers de police de choc, avec leurs gros calibres identiques, tirant dur et frappant sec, avaient eu cette même dégaine. On aurait dit 2 éleveurs de cochons en goguette à la Grand-Ville.
La férocité de Fossoyeur et de Cercueil, c'était une honte. C'était la honte que leur peuple se conduise comme ça. Ils avaient une haine encore plus forte des flics blancs. C'est-à-dire qu'il voulait absolument pas que les flics blancs rentrent dans Harlem et que les flics blancs voient l'état du peuple noir. C'est deux militants, hein, et on voit bien à la fin dans son bouquin complètement fou, inachevé, qui s'appelle Plan B, où carrément c'est Cercueil et Fossoyeur qui prennent la tête de la lutte des noirs et qui mènent la révolution dans Harlem. Donc il est resté en rage. Mais sa rage, elle s'est exprimée de façon rigolote, je dirais, très vive, très 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 bon. La colère restait là quand même. Et Fossoyeur et Ed Cercueil, c'est pas n'importe qui. C'est pas simplement des flics brutaux. C'est des flics qui protègent leur communauté quand même.
Et l'aveugle pistolet casse, quelque chose s'est cassé dans sa vision de Harlem aussi, dans sa vision de ses romans policiers et de ses policiers. Qui sont des personnages en effet ambigus depuis le début. Ils sont donc les seuls à comprendre le ghetto, les seuls à pouvoir maîtriser les habitants de Harlem. Ils sont aussi finalement ceux qui brutalisent le plus les Harlemites. C'est-à-dire que depuis le début, ils sont d'une violence redoutable à l'égard des personnages qu'ils croisent. Il y a une scène, je crois que c'est dans The Real Cool Killers, qui est un des premiers romans, où ils torturent aussi un jeune délinquant qu'ils arrêtent. Et en fait, la description de la scène de torture du personnage reprend quasiment, détail par détail, le mauvais traitement, la torture qu'a subi Himes quand il a été arrêté lui-même en 1928, après son hold-up chez un couple de riches blancs, où il se fait arrêter, c'est le moment où il se fait envoyer en prison, justement. Et si on regarde son autobiographie, la description des mauvais traitements qu'il subit aux mains des policiers blancs, c'est exactement la scène de donc, The Real Cool Killers.
Introducing two cops only a mother could love. Meet Coffin Ed Johnson and Grave Digger Jones, two of New York's finest. Two cops who take charge when an $87,000 bale of cotton comes to Harlem.
Tell me something, will you? What's a bale of cotton doing in Harlem?
A bale of cotton?
Bale of cotton.
No, what would a bale of cotton be doing in Harlem?
Down south, cotton was king.
Cotton comes to Harlem. It's cops and robbers with a shade of difference.
See any cotton around here lately?
A bale of cotton, sure.
Where is it now?
You turn Japanese, huh?
Wait, come on, you know the position, come on.
Damn it.
Another fine mess you got us into.
I got us into. Shut up and shoot.
Il y a un mois, qui connaissait l'existence de Watts, le quartier noir de Los Angeles? Cela a commencé par peu de choses, un incident de circulation qui normalement n'aurait même pas mérité une ligne dans les journaux. Un policier blanc qui interpelle un automobiliste. Mais l'automobiliste était un noir. Ce fut l'émeute la plus sanglante au cri de « mort à l'homme blanc ». Il y eut des milliers de blessés, 32 morts. Et il fallut une semaine à une armée de 15 000 hommes pour rétablir l'ordre.
Si je comprends bien, vous avez découvert l'instigateur de l'émeute.
On a toujours su qui c'était.
Et c'est simplement qu'on ne peut rien contre lui.
Mais pourquoi, bon Dieu?
Il est mort.
Et qui?
Lincoln.
Il n'aurait pas dû nous libérer s'il n'avait pas l'intention de faire des provisions pour nous nourrir. N'importe qui aurait pu le prévenir.
Ah bon, ça va. On est des tas à se demander ce qu'il aurait pu penser des conséquences. Mais il est trop tard pour l'accuser maintenant.
De toute façon, on n'aurait pas pu le condamner.
Il aurait eu qu'à plaider sa cause en se fondant sur ses bonnes intentions. Jamais un blanc n'est condamné tant qu'il invoque la pureté de ses intentions.
Ah oui, bon, mais qui est le coupable cette nuit à Harlem? Qui incite les gens à des manifestations anarchiques, stupides?
Les blancs.
Tout ce que nous savons, c'est ceci. Que vous ayez vos cheveux naturels ou permanentés, qu'une de vos sœurs soit coiffée à la naturelle ou à la défrisée, qu'un macro du quartier ait son petit costume de macro sur le dos ou un costume de mohair, qu'une sœur se prostitue, ou que des frères travaillent dur par là, dans une cuisine ou dans une usine. Quoi qu'il en soit, mes frères, les cochons viendront vous assassiner, vous brutaliser, vous tuer, simplement parce que vous êtes noir, sans tenir compte de ce que vous êtes. Et ça, c'est un fait. Nous avons coincé les cochons. Ils ne savent pas où nous en sommes. Ils ne savent pas si tous les nôtres sont représentés ici. Mais ils savent que nous représentons une manifestation de la communauté noire. Et les cochons sont au point où ils ne peuvent plus s'en arranger. Dans ce pays, ils ne peuvent plus s'arranger avec les noirs.
Thank you.
bien qu'il y ait une révolution noire assez sérieuse dans les années 60, enfin au milieu des années 60, 67, 68, etc., Chassahan donne l'impression de ne pas y croire. D'ailleurs, le titre de son roman, L'aveugle au pistolet, c'est, il tire à l'aveuglette, non, on ne sait pas où ils vont. C'est une révolution sans leadership, c'est une révolution sans plan, il n'y a pas de stratégie, on ne sait pas où on va. Et alors, c'est pour ça dont il écrit son texte, L'aveugle au pistolet.
Un de mes amis, Phil Lemax, m'a raconté cette histoire d'aveugle armé d'un pistolet qui, voulant tirer dans un wagon de métro sur un homme qu'il avait giflé, avait tué un innocent voyageur en train de lire paisiblement son journal sur une banquette. Et j'ai pensé ça alors, ça ressemble vraiment aux nouvelles qui circulent aujourd'hui. Les émeutes dans les ghettos, la guerre au Vietnam, les gestes masochistes qui s'accomplissent en Orient. Et puis j'ai pensé à certains de nos leaders, forts en gueule, qui poussent nos vulnérables frères à aller se faire tuer. Et je me suis dit là-dessus que toute cette violence inorganisée était comme un aveugle armé d'un pistolet.
L'Amérique noire est marginale, mais Chesterham est marginale à l'intérieur même de l'Amérique noire. Parce que tout commentaire qu'il fait par rapport à l'Amérique noire ne peut pas être considéré comme un commentaire de leader. Il ne veut pas du tout se faire passer pour un leader.
Ambroise Cosme.
Parce que, en quelque sorte, il sait que ceux comme les Richard Wright, Baldwin, Ralph Ellison, qui ont été considérés comme des grands leaders. En fait, ça n'a rien donné. Donc, et il veut se distinguer aussi. C'est ça aussi chez Chesterham. Il y a cette recherche, comme dirait Bourdieu, une recherche de la distinction. Distinction, comment créer ma propre voix, qui ne soit ni celle de Baldwin, ni celle de Richard Wright, ni celle de Ralph Ellison. Il me faut me créer ma voix. Et cette voix-là se fait justement dans cette singularité.
Je pense que c'était impossible pour lui de considérer un mouvement politique sans un sens de l'absurde. Il y a un moment dans la fin d'un primitif où le chimpanzé à la télé annonce la décision de la Cour suprême Brown versus Board of Education. La chimpanzé annonce le résultat. C'était en 54, cette décision. Et en fait, c'était le début de la fin de la ségrégation. Mais le personnage, l'écrivain qui est Himes dans ce livre, il dit « Oui, et maintenant, la douleur commence. » Et c'était la première fois où j'ai lu un commentaire par un noir si cynique vis-à-vis Brown versus Board of Education. Normalement, Brown versus Board of Education est considéré une des grandes victoires. Mais Solomon Himes a vu cette décision et pensé, OK, maintenant, les vrais problèmes commencent. Et ça, c'était son attitude, ce cynisme.
À partir des années 60,
Hélène Tison,
les émeutes dans tous les ghettos américains, etc., c'est effectivement la réalité politique américaine qui rattrape un petit peu Himes. Et quand il essaye de continuer à écrire du roman policier dans Harlem, mais en essayant de faire entrer ce qui se passe réellement au niveau politique aux États-Unis à ce moment-là, ça n'est pas possible. Dans L'aveugle au pistolet, on voit l'échec de Cercueil et de Fossoyeur, donc de ces intermédiaires entre le monde blanc et le monde noir. Mais dans Plan B, ce sont eux qui disparaissent littéralement et qui s'entretuent. Donc, je ne sais pas, les traîtres qui se tuent, qui se suicident. Ce sont évidemment deux personnages jumeaux. Donc Fossoyeur tuant Cercueil, ça relève du suicide.
Justin Himes n'a pas fait un travail inutile. Parce que la révolution qu'il prend depuis If He Hollers, Let Him Go, Sir Brahe, Lâche-le, en 1945, ça se poursuit jusqu'en 1983, Plan B, qui est le dernier roman policier, terminé par Michel Fabre au chapitre 24. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, on s'est aperçu que les héros échouaient. C'était dur, c'était difficile, parce que les mentalités ne s'y prêtaient pas. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? C'est que
les hommes politiques, les hauts fonctionnaires, la confiance du peuple noir. On va l'avoir avec l'accession de M. Obama au pouvoir. C'est ce que voulait Chester Himes. Il ne savait pas que ça se réaliserait 25 ans après sa mort, mais c'est fait. Obama est un héros de Chester Himes.
J'ai constaté qu'en France, on fait un effort pour comprendre mes livres. On ne les rejette pas à cause des dits préconçus.
Je vous remercie, Monsieur Chester Himes, et si vous remerciez le public français de faire un effort pour comprendre vos livres, vous aussi avez fait un effort considérable pour dire quelques mots en français, et je vous en suis très reconnaissant.
Chester Himes, noir sur noir. Avec les voix de Valli, Gilles Davidas, Jake Lamar, Yvan Labéjoff, Jean Levray et Robert Liensol. Merci pour leur participation à Sylvie Escande, directrice adjointe de l'École normale supérieure d'architecture Paris-Malaquais. Ambroise Combe, professeur au College of the Holy Cross de Worcester. Jake Lamar, écrivain. Jean Miotte, peintre. Komdongo Onono, maître de conférences en littérature noire américaine. Patrick Rénal, éditeur et écrivain. Hélène Tison, maître de conférences à l'Université de Tours. Jean-Louis Touchant et Melvin Van Peebles. Merci encore à Yann Chouquet, Hélène Christol, Renato Corona, Anne de Biran, Geneviève Fabre, Philippe Loumier, Sophie Vallas et à la librairie Présence Africaine. Archivina, Amélie Briand le Jeune et Anne Delavaux. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Romain Lenoir, assisté de Kamal Salifou. Réalisation, Gilles Davidas. Un documentaire de Martin Kénéen.
Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Commentaires, réécoutes et podcasts sur franceculture.fr. La semaine prochaine, samedi et dimanche, à 17h, Une vie, une œuvre délaissera le noir pour l'humour en compagnie de Pierre Dac et Frédéric Dard, dit San Antonio. Mais pour l'heure, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.